Bonjour Guy Gouette.
Bonjour.
Les documents rendus publics par Edward Snowden datent d'il y a quelques années, mais on peut supposer que le phénomène continue aujourd'hui. Est-ce qu'il est vraiment possible d'y échapper ?
Absolument pas, d'une part parce que vous avez l'exacerbation de la concurrence dans l'ordre international, notamment sur le continent africain où, alors évidemment, jadis, on avait les grandes puissances classiques telles que les États-Unis, l'Europe, mais aujourd'hui, il y a la montée en puissance des Chinois, des grands émergents derrière, et donc tout cela crée une concurrence qui est telle que l'espionnage est au cœur, si vous voulez, de l'actualité africaine aujourd'hui. Même si on n'en parle pas dans les médias, dans la vraie vie, dans le monde réel, on est confronté au phénomène de l'espionnage.
C'est ce que vous dites, les Américains et les Britanniques, on en a beaucoup parlé ces derniers temps avec ces révélations d'Edward Snowden,
oui.
Mais d'autres puissances mettent en œuvre le même type de surveillance.
Alors le même type de surveillance sur le principe, oui, mais dans les moyens, non. Pourquoi parle-t-on autant des États-Unis et de la Grande-Bretagne ? Eh bien tout simplement parce que depuis 1947, l'accord UK-USA a été signé qui marquait littéralement l'acte de naissance d'Echelon. C'est en fait un programme d'écoute massif qui fait que ce que font par exemple aujourd'hui les Chinois et plus généralement l'ensemble des puissances qui sont parties à la conquête ou à la reconquête des marchés africains, ce qui fait la différence, disais-je, c'est que les écoutes états-uniennes et européennes, notamment pour le coup à partir d'Echelon, sont beaucoup plus massives. Je vous parle d'un cas très concret pour l'expliciter. Lorsque on écoute, par exemple, une personnalité politiquement exposée, Echelon est capable de circonscrire, si vous voulez, l'écoute, l'investigation, à entre 10, 20, voire 30 personnes autour de la personnalité politiquement exposée, ce qui occasionne des frais qui sont absolument colossaux. Donc, pour les puissances de taille moyenne, eh bien, ces écoutes-là, menées de manière continue, permanente, ont un coût qui est difficilement supportable, surtout que par ailleurs, on a aujourd'hui la lutte contre le terrorisme qui capte beaucoup d'énergie de ces États-là.
Cela signifie que la Chine, par exemple, mène des opérations du même genre, surveille également, mais dans une moins grande ampleur ?
Forcément, d'une moins grande ampleur sur le continent par rapport à ce qu'ont établi nos amis britanniques et américains, donc à partir de 1947, mais ce n'est absolument pas négligeable, loin s'en faut. Sur le continent africain, il y a effectivement un dispositif d'État, mais ce qui est encore beaucoup plus intéressant aujourd'hui, c'est, si vous voulez, la mobilisation des individus, tout simplement des professionnels du privé, qui, à l'aide de dispositifs qui ne sont pas chers du tout, c'est-à-dire qu'avec 150 euros, on peut placer, par exemple, un ministre ou un secrétaire général de ministère sur écoute à partir d'un point fixe, par exemple, de son mobile, pour entendre tout ce qu'il dit, y compris pour les emails. Il suffit parfois d'envoyer une pièce jointe avec un cheval de Troie pour s'ouvrir les vannes de l'ordinateur, par exemple, d'un responsable politique, sachant que, par ailleurs, la plupart utilisent des adresses chez Yahoo, Google, etc. et ne sont pas spécialement sécurisés pour le type d'opérations qu'ils sont amenés à traiter au quotidien.
Des méthodes aussi simples, ça fonctionne aujourd'hui ?
Ça fonctionne plus qu'on ne peut l'imaginer à partir du moment où on a bien circonscrit la cible et qu'on sait exactement le type d'informations qu'on recherche. Je précise aussi à toutes fins utiles que, contrairement à ce qu'on peut penser a priori, les décideurs africains ne sont pas des victimes absolument inoffensives. Il y a au sein de ces États déjà des dispositifs d'espionnage, de renseignement d'État qui sont connus, qui font pratiquement le même travail, mais sur les citoyens de ces pays-là. Mais force est de constater que lorsqu'on a en face de soi un dispositif étatique qui a à cœur de percer le secret d'une information, eh bien, ça peut prendre le temps que ça prend, mais on finit toujours par percer le secret de l'information. Donc, toutes choses qui font qu'aujourd'hui, la clé est véritablement dans la ruse et dans la vigilance tout à la fois.
Et sur le continent africain, quels sont les pays qui sont en mesure d'espionner leurs voisins, comme le font les États-Unis, le Royaume-Uni ou la Chine, par exemple ?
Aucun pays n'a les moyens de ces puissances-là. En revanche, ce qui est intéressant à dire ici, c'est que tous les États, d'une manière ou d'une autre, même si c'est fait avec des moyens extrêmement faibles, tous les États, eh bien, espionnent les États voisins, tout simplement, pour ne pas être surpris, parce qu'il n'y a rien de pire pour un décideur que l'incertitude. Alors, je vous disais tout à l'heure que le premier pôle, c'est la sécurité, notamment la question du terrorisme islamiste, mais tout de suite après, il y a l'aspect économique autour duquel sont donc mobilisés la quasi-totalité des États du continent à l'effet d'en tirer les plus grands bénéfices.
Merci Guy Goët.
Je vous en prie.